Donc, il y aurait une trajectoire qui irait de Hölderlin à George Open, une trajectoire qui pourrait se lire depuis le dernier poème de Open, un poème dont le titre, Le Poème, indique qu'il semble devoir condenser l'essence de la poésie si quelque chose de tel existe. Donc, je vais vous lire ce poème. Poésie du sens des mots, nouée à l'univers, je crois que s'il y a une lumière, elle est en ce monde, et je crois qu'il y a de la lumière. Donc, la trajectoire qui partirait de là, de ce poème de 1980, pourrait alors remonter dans le temps et retrouver le programme assigné au poète par Hölderlin, que l'on trouve dans ses remarques sur les traductions de Sophocle. Il dit ceci « Il faut retourner notre aspiration à quitter ce monde pour un autre en une aspiration à quitter cet autre monde pour celui-ci. » Mais quel serait ce lien entre l'œuvre de Hölderlin et la poésie de Open? Si l'on prend par exemple le roman Hyperion de Hölderlin, qui est ce qu'on a appelé un roman de formation, les romans de formation, comme avec Goethe et Novalis qui lui répondent en Ried auf Torridingen, présentent le déroulement d'une vie qui se confond avec la traversée de vérité qui se rencontre dans cette vie. Et surtout, avec le point d'aboutissement de cette vérité, qui est aussi celle de leur totalisation rétrospective. On a pu dire que le roman de formation ainsi conçu préfigurait la dialectique de Hegel, ou plus justement que la phénoménologie de l'esprit était un exemple de roman de formation. Or, la poésie, du moins dans ses tentatives contemporaines et celles du siècle dernier, semble à l'opposé de cette visée édifiante, et de la recherche d'un point de stabilisation, elle a pu tout au contraire apparaître comme une puissance de fragmentation et de dissémination de la langue, comme a pu dire Derrida, à tel point que l'on a pu présenter la poésie comme l'exposition d'une expérience sans vérité, une expérience délivrée de l'idée de vérité, comme a pu l'écrire Agamben. Il n'est pas sûr cependant que, même dans son extrême contemporanéité, la poésie soit adéquatement présentée ainsi, à travers la mise à distance de la recherche du dire vrai. Il n'est pas sûr qu'il faille se délivrer de la vérité, du moins si celle-ci n'est pas confondue avec la démarche de connaissance. De Hölderlin à Open, en passant par Cummings, dont Benoît va nous lire un poème, il s'agit avant tout de dire le vrai sur la lumière du monde. Donc c'est le 65.
Si l'extrême de la nuit, que le jour a suffi, à clore, s'ouvre, si plus silencieuse que le silence mieux qu'étoiles fleurissent de blanchoyantes naissances d'esprit, si l'air vibre en prière ou s'agenouille des yeux, tel que parfaitement leur imparfaite vision grimpe ce vertigineux parfum d'éternité, priant monde après monde, plus vaste que des mondes, ainsi, disparaissant le non-amour, seule ta moins soupçonnée plus que beauté peut commencer, une vie pas même imaginée t'exposant à sentir que du printemps, le moindre souffle appelle une couleur. Et je ne la connais pas. Pourtant, derrière la mort de la mort chante des voix sans camp, et partout et toi-même se reconnaissent en elle.
Et la lumière de ce monde est évidemment la lumière d'un monde sans Dieu. Le poème Psaume évoquant la rose de personne de Celan en est peut-être le manifeste. Et quand il n'y a pas de Dieu, ce qui éclaire le monde, c'est le fait du nouage entre les êtres, qu'ils soient humains ou non.
L'amour est un lieu, et sur ce lieu d'amour arrive, avec l'éclat de la paix, tous les lieux. Oui est un monde, et en ce monde, de oui vivent, avec adresse enroulée, tous les mondes.
Mais on ne peut dire le vrai sur la lumière du monde sans dire aussi ce qui fait contraste avec cette lumière. Ou plutôt, ce dire appelle aussi celui complémentaire de sa part de nuit. On pensera à Celan, encore une fois, mais aussi à Nelly Sachs, dont je vais vous lire quelque chose. Quand, enfin, derrière l'oreille, dans l'artère de mort, s'étend et s'apaise mon univers sans horizon, le sang qui circule pleure à contre-courant de sa mère immatérielle, là où la flamme bleue de l'agonie, transit la nuit. La mer immatérielle, qu'il n'y a plus, mais qui est dûment entrevue lorsque l'angoisse s'apaise, c'est peut-être celle qui avait accompagné le nouage avec un autre être qui n'est plus là. Mais qu'est-ce que cette nuit? Comment la concevoir? On peut s'appuyer pour cela sur Giono, qui sont, sur Lorenz et Giono qui sont dans notre vitrine. Tous deux conçoivent cette part de nuit, au premier abord, comme l'obscurité originelle, le non-être, source de renaissance. Ils semblent aborder la nuit dans une perspective mystique qui appelle la béatitude devant un rien qui, au bout du compte, est égal au tout. Lorenz écrit dans Nouveaux cieux, nouvelle terre, et ce qui est tout, et ce qui est tout à fait rien, alors est tout. Giono écrit dans Rondeur des jours, nous allons vers rien, justement parce que nous allons vers tout, et tout est atteint du moment que nous avons tous nos sens prêts à sentir. Mais ce n'est pas cette approche de la nuit qui nous intéresse chez eux. Car au fond, ils expriment vis-à-vis de l'obscurité contenue dans la vie un problème bien plus important pour nous. Cette obscurité irrémédiable, la mort qui est contenue dans la vie, fait que l'on perçoit la vie comme jamais couronnée, comme l'écrit Lorenz dans le poème Serpent. Savoir que la vie est à jamais tragique appelle alors les humains à composer des chansons pour la supporter, comme celles qui sont compilées dans Rondeur des jours de Giono. Ils expriment tous deux la nécessité d'assumer le tragique de la vie comme condition de sa lumière. Cette fragilité habite au même titre les êtres et le nouage des êtres, soit parce que les liens peuvent se déchirer, soit parce qu'ils ne se nouent pas, à cause de la pierre jetée au dernier moment par l'homme qui a vu le serpent, dans le poème Serpent, ce dernier disparaît sans qu'il y ait pu y avoir rencontre. Car voilà, il y a un autre élément fondamental qui fait contraste, mais une toute autre sorte de contraste, avec la lumière de ce monde. Ceci qu'une part considérable des gestes de l'humanité semble fait pour la conjurer. C'est ce que semble nous dire en tout cas ce poème de William Wordsworth, intitulé « Premier jour de printemps ». J'entendais mille voix mêlées à demi couchées dans un bois, dans cette humeur où des pensées de bonheur font naître l'effroi. La nature à son bel ouvrage liait l'âme qui coule en moi, et mon cœur déplorait l'outrage de ce que l'homme a fait de soi. Les pervenches sous la ramure couraient parmi les primes verts. Oh oui, chaque fleur, j'en suis sûre, aime l'air qui la désaltère. Les oiseaux jouaient, sautillant, leurs pensées je ne saurais dire, mais dans leur moindre mouvement passait un frisson de plaisir. Les branches ouvraient à la brise leurs bourgeons pour mieux les saisir, et je dois croire, quoi qu'on dise, qu'il y avait là du plaisir. Si le ciel me donne le gage que la nature a fait ce choix, ai-je tort de pleurer l'outrage de ce que l'homme a fait de soi? Il y a un anti-humanisme de la poésie, un parti pris des choses, inhérent à son énonciation. Le monde est plus que ce que l'homme en a fait. Tel est non pas le message, mais le constat d'où procède l'énonciation poétique. On aurait tort de croire que cet anti-humanisme implique une condamnation du quotidien. L'énonciation poétique a concentré une grande partie de sa force à écrire non seulement la beauté du monde, mais aussi celle des activités tout à fait ordinaires. Cela a été vrai pour Hésiode ou pour Virgile, et elle l'a également été, d'une autre manière, à partir du romantisme. Alors l'homme du commun est effectivement devenu son sujet privilégié. C'est vrai au moins depuis les ballades lyriques de Wordsworth. Mais peut-être faut-il dire les choses autrement. Il y a aussi un combat de la poésie contre le quotidien. Si celui-ci correspond, selon la formule de Musil, à la moyenne de tous nos crimes possibles. Peut-être la vocation de la poésie, ou un aspect essentiel de sa vocation, est-il de nous restituer la gloire de l'ordinaire en tant qu'elle est masquée par le quotidien. En ce sens, il est bien vrai que la poésie opère une transfiguration de la réalité, mais ce n'est pas une transfiguration qui vise à nous délivrer de la vie ordinaire. C'est une transfiguration de la vie ordinaire elle-même, qui est cependant laissé à son ordinaire. Car si la transfiguration du monde signifie bien voir ce qui est grand, on peut assumer notre naïveté et le voir même dans le tout petit, dans la moindre fleur bleue. Benoît va nous lire un poème de Open
qui s'intitule Monde, monde. Échec, pire échec, rien n'est vu d'en haut, trop de choses vues depuis le fossé. Ceux qui refusent de regarder, même s'ils l'éprouvent à la surface de leur peau, ne sont pas transpercés. On ne peut pas les prendre en compte, même s'ils sont présents. Tout est d'une telle sauvagerie, surtout là où règne la circulation et la populace. La pensée nous assaille parce que nous sommes là. Tout se ramène à ça. Les introspections, ces prescriptions, sont une manie médicale, tentative de fuite pour se perdre dans le moi. Le moi n'a rien de mystérieux. Le mystère est qu'il existe quelque chose sur quoi se tenir. Nous voulons être ici. L'acte d'être plus que soi.
Et Kierkegaard précise ceci sur le propos que je viens d'avoir. Toute poésie est transfiguration de la vie par sa clarification. Je voulais vous lire un petit poème de Novalis qui fait écho à cette formule. Lorsque nombres et figures ne seront plus la clé de toute créature, lorsque tous ceux qui s'embrassent et chantent en seront plus que les savants profonds, lorsque le monde reprendra sa liberté et reviendra au monde se donner, lorsqu'en une clarté pure et sereine alors ombre et lumière de nouveau s'épouseront, et lorsque dans les contes et les poésies on apprendra l'histoire des cosmogonies, c'est là que s'enfuira devant un mot secret le contresens entier de la réalité. La transfiguration de l'ordinaire est une autre manière de nommer le refus de laisser perdurer le gâchis. Ainsi entendu, elle appelle une transformation de l'état des choses par une décision, quelle que soit sa portée. Et je voulais vous lire un dernier poème pour ma part, qui est un exemple d'appel à décider la transfiguration de l'ordinaire. C'est encore un poème de Wordsworth qui s'appelle « Vers écrit à une courte distance de ma demeure et envoyé par mon petit garçon à leur destinataire. » C'est le premier beau jour de mars et chaque instant se fait plus doux. En haut du grand mélèze chante le rouge-gorge devant nous. Un état de grâce emplit l'air et paraît animé de joie les arbres, les monts dénudés, l'herbe dans le pré. Ma sœur, écoute mon souhait. Le déjeuner est achevé. Laisse tes tâches du matin, viens voir le chaud soleil. Édouard viendra, veux-tu bien vite ta robe des bois revêtir. Et viens sans livre, car ce jour sera tout au loisir. Rien d'attristant ne rythmera le calendrier de nos vies. Datons ce jour, mon ami, le début de l'année. L'amour, naissance universelle, vole de cœur en cœur. Va et vient de l'homme à la terre, tout n'est que sentiment. Un seul de ces instants aura plus que 50 ans de raison. Notre âme boira par ses pores l'esprit de la saison. Nos cœurs auront des lois secrètes qui longtemps les gouverneront. Pour l'année à venir, prenons notre humeur dans ce jour. Au rythme du pouvoir béni qui circule alentour, nous ferons vibrer nos esprits accordés à l'amour. Ainsi, ma sœur, veux-tu bien vite ta robe des bois revêtir et viens sans livre, car ce jour sera tout au loisir. Si la poésie compte pour la revue Exemple, qui est une revue politique, comme on l'a dit, c'est parce que la politique est le moyen de défendre en ce monde, non pas trop naïvement le bonheur, mais la possibilité de sa lumière autant que de son obscurité. Il n'y a qu'un pas entre le dire vrai sur la lumière du monde et une position politique. La question est bien sûr de savoir comment faire ce pas. Et pour y répondre, il faut tout d'abord savoir écarter ce qu'il n'est pas. Disons déjà que l'intervention poétique ne se confond pas avec l'intervention politique. La poésie s'inscrit dans un champ qui est celui de la circulation des signes, des discours et des œuvres, autrement dit le champ de la culture. Mais on pourrait dire qu'elle cherche à opérer une sorte de césure, une interruption, ou du moins un ralentissement dans cette circulation, ou une mise en crise interne de ce champ. La politique implique une intervention dans une situation sociale donnée, une intervention qui a pour objectif la modification de cette situation. Elle crée ainsi nécessairement une ligne de front entre deux camps opposés, voire ennemis. Il y a d'un côté ceux qui veulent que la situation reste en l'état ou qui s'en arrangent suffisamment pour ne pas souhaiter l'avoir changée. Et il y a ceux qui, parce qu'ils en voient l'injustice par exemple, veulent provoquer ce changement. Les différences entre les deux types d'interventions sont alors assez nettement esquissées. Il y a une différence dans le sujet d'intervention et une différence dans son adresse. Le sujet de l'intervention politique est nécessairement un collectif, même quand ce dernier n'a qu'une extension limitée. Le poète n'est que rarement plusieurs, quoique. Mais même lorsqu'il est plusieurs, il ne fait pas collectif. En tout cas, il ne fait pas collectif d'action, sauf si on me dément. La poésie et la politique, pourrait-on dire, s'adressent tous deux à chacun, à l'être quelconque, mais elles ne s'adressent pas à l'être quelconque de la même manière. La poésie s'adresse à chacun, pris un par un. Le lecteur ou l'auditeur est interpellé dans son être singulier et a à répondre par ou depuis cet être. La politique s'adresse à chacun en tant qu'il peut entrer dans un collectif d'action. L'être quelconque n'est alors pas interpellé depuis son être singulier, mais en tant qu'il peut participer à entrer dans une composition collective. On demandera alors quelle peut être l'articulation entre poésie et politique, et même s'il peut y en avoir une, au vu de l'hétérogène qu'on vient de décrire. Il nous semble que cette articulation existe pourtant, et qu'elle doit être conçue comme un double décentrement. Nous nous appuyons sur le travail de Jacques Rancière pour caractériser ce double décentrement. D'un côté, la poésie, entendue comme l'une des formes de l'art, a en son cœur le rapport à ce qui n'est pas l'art. C'est le propre de l'art dans son âge esthétique, c'est-à-dire lorsqu'il vient exister comme art, que de vouloir sa propre désidentification et de n'être définissable que par celle-ci. C'est à ce paradoxe que Rancière revient constamment. Il n'y a l'art comme sphère d'expérience distincte qu'à partir du moment où il est indiscernable de la prose du monde. Au cœur de l'art, il n'y a finalement que les choses ordinaires et leur lumière. Mais à l'inverse, la politique, entendue comme capacité d'action collective, ne peut être fidèle à sa propre visée, à savoir toujours dans les termes de Rancière l'égalité, que dans la mesure où elle sait conserver en son cœur autre chose que l'action, peut-être même son contraire, une égale capacité de tous à l'inaction, au bonheur de ne rien faire et de sentir. Disons autrement les choses. Entre l'art et la politique, il y a un décentrement mutuel. L'art est excentré de lui-même au moment où il se définit comme tel. Il trouve son propre en le perdant, c'est-à-dire en ayant en son cœur le non-art. A l'inverse, la politique contemporaine, c'est-à-dire la politique révolutionnaire, ne peut se comprendre elle-même si elle s'en tient aux éléments qui ont jusque-là défini le champ de la politique. Elle ne peut plus laisser en dehors d'elle ce qui ne s'y trouvait absolument pas auparavant. Non seulement l'apparition de ceux qui n'étaient pas comptés, l'apparition des gens du commun, mais aussi l'aspiration de ces derniers à faire leur les formes d'expérience sensibles qui se regroupent sous la bannière de l'art, ou auxquelles elles renvoient, l'écriture, le travail de la pensée, le ne rien faire qui permet de goûter le bonheur du sensible. La politique contemporaine a donc elle aussi en son cœur tout autre chose qu'elle-même, tout autre chose en tout cas, que ce que l'on avait jusqu'ici, notamment chez les philosophes, reconnu comme l'ensemble des objets et des problèmes attachés au concept de politique. Il y a donc une inhérence réciproque de l'art et de la politique, une inhérence réciproque qui pour autant ne peut pas s'achever dans la confusion et l'indistinct. La politique a en son cœur, au centre de son projet, ce que l'art lui indique, comme contenu le plus substantiel. Mais l'art, à l'inverse, ne continue à être art que s'il a en son cœur autre chose que lui-même, c'est-à-dire la vie ordinaire des gens ordinaires, et pas seulement les multiples formes, aussi sophistiquées soient-elles, du jeu de renvoi spéculaire des créations entre elles. C'est donc le décentrement mutuel de l'art et de la politique qui permet leur imbrication autant que leur fécondité propre. Au cœur de la politique portée par la revue Exemple, je pense pouvoir dire qu'il y a ceci que la poésie, peut lui indiquer. La vérité de la lumière du monde, qui est une lumière athée, qui émane du nouage entre les êtres, et qui nécessite qu'on accepte de faire face à sa part de nuit autant qu'à son insupportable beauté, et qu'on accepte de chercher à transfigurer le monde.